pendant que vous trouvez 2 Corinthiens 4, je me permets deux annonces en lien avec l'Institut biblique de Bruxelles. La première, c'est que nous avons publié cette semaine un bref article destiné à nous donner les armes bibliques permettant de réagir de façon saine, bibliquement saine, au coronavirus. Donc, vous pouvez profiter de cela, vous allez pouvoir trouver cela sur le site de l'Institut et sur la page Facebook de l'Institut. Et puis, nous avons aussi publié cette semaine tout le programme académique de l'année académique prochaine, 2020-2021. Donc, si vous voulez prendre déjà des dispositions en vue de profiter de telle ou telle série de cours en semaine, le samedi, des séminaires ponctuels du samedi, tout est disponible sur notre site. Maintenons le cap. Maintenons le cap dans le ministère de la parole de Dieu. Maintenons le cap en veillant sur la forme de notre ministère et en veillant sur le fond de ce que nous annonçons. C'est à cela que la parole de Dieu nous exhorte ce matin. Nous allons lire le passage 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse où nous n'agissons pas avec ruse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, toi qui fais briller ta lumière dans le cœur de tes enfants, œuvre maintenant pour nous illuminer encore et pour illuminer des personnes pour la première fois. Cela afin que nous puissions percevoir ta gloire qui resplendit dans la personne et l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Cette église a grandi, gloire à Dieu, mais d'autres ferment. Et il y a toujours 99% de la population qui n'adore pas Jésus-Christ. On pourrait aisément se décourager. On aurait envie de trouver la recette qui marche. Des recettes destinées à nous offrir la clé des progrès ne manquent pas. Voici quelques livres. On pourrait repeindre la foi chrétienne, laisser de côté des doctrines qui fâchent comme l'enfer. On pourrait réinventer l'Église. On pourrait laisser de côté l'Église. Je sais que, de prime abord, ça pourrait sembler peu excitant, mais nous devons entendre ce matin l'appel à maintenir le cap. La semaine dernière, dans le chapitre 3, nous avons compris que le ministère de la nouvelle alliance en Christ est puissant et glorieux. Vous vous souvenez des contrastes qui se dégagent du passage la semaine passée. Le ministère de l'ancienne alliance était déjà glorieux, mais impliquait de respecter la loi de Moïse, sinon c'était la mort et la condamnation. Le ministère de la nouvelle alliance est supérieur en gloire. C'est un ministère du Saint-Esprit qui amène la vie, qui permet à des personnes d'être en règle avec Dieu et même d'être transformées, nous l'avons vu la fois passée, transformées de gloire en gloire. Et Paul commence ainsi notre passage du chapitre 4. Puisque c'est comme ça, nous ne baissons pas les bras. Il est vrai que le « nous » de notre passage désigne Paul lui-même. Tout au long de la section 2, 14 jusqu'à 6, 2, le « nous » c'est Paul, sauf là où il précise autrement. Par exemple, 3, 18, il dit « nous tous », là c'est tous les croyants. Mais sauf contre-indication, le « nous » égale « Paul ». Et un peu plus loin, il va parler ainsi, « Nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Autrement dit, « Moi, Paul, je vous supplie, Corinthiens. » Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce que Paul doit se défendre dans cette lettre. Des faux docteurs se sont infiltrés parmi les Corinthiens et sont en train de les persuader qu'il faudrait viser d'autres recettes plus impressionnantes. Et ces personnages étaient impressionnants. Alors qu'on disait de Paul, chapitre 10, « Il est faible et sa parole est méprisable. » Et selon le verset 4 du chapitre 11, dans la théologie de ces faux docteurs impressionnants, il était carrément question d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile. Et donc Paul doit mettre les pendules à l'heure et doit supplier les Corinthiens de se rallier au vrai évangile. Leur salut est en cause, soyez réconciliés avec Dieu. Et dans le courant de sa défense, Paul explique pourquoi il maintient le cap dans son ministère et en quoi consiste maintenir le cap dans son ministère. Et c'est très précieux pour nous, parce que même si nous ne sommes pas l'apôtre Paul, nous pouvons être au clair sur les caractéristiques d'un ministère de la Nouvelle Alliance, de l'Évangile, qui est authentique. Précieux pour nous parce que nous sommes impliqués dans ce ministère encore en 2020. Certes, l'application de notre passage vaut particulièrement pour Steve, pour Benjamin, Robbie, Samuel, mais comme Paul l'explique aux Philippiens, dans l'église locale, nous sommes tous partenaires, collaborateurs, impliqués dans l'œuvre de l'Évangile. Il n'y a qu'à penser à ce qu'entraîne le stage de Pâques, toutes les personnes qui sont mobilisées pour cela, ou pensons à l'événement de vendredi, dont la distribution des flyers est prévue pour 13 heures. Bref, nous pouvons légitimement appliquer ce passage à nous, d'où le verso du feuillet, ne perdons pas. Pas courage. Et il ne faudrait pas se voiler la face. Si nous sommes engagés dans un ministère de la parole qui est authentique, nous aurons toutes sortes de raisons de vouloir baisser les bras. Paul parle au chapitre 7 de lutte au dehors, de crainte au dedans. Dans le passage de la semaine prochaine, Paul est pressé, dans la détresse, persécuté, abattu. Et l'une des raisons majeures pour lesquelles nous risquons de nous décourager se trouve dans notre passage de ce jour. Vous voyez les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. le dieu de ce siècle, c'est Satan. Et Satan est puissant. Il place un voile sur l'intelligence des gens. Ces personnes entendent l'évangile, mais n'en comprennent rien. Lorsque je travaillais dans la finance à Londres, j'avais un collègue qui m'accompagnait quasi chaque semaine pendant des mois et des mois et des mois pour écouter le message du christianisme. C'était dans le cadre d'un ministère de tout près de notre bureau sur le temps du midi. Et ce collègue n'a jamais compris le message. Il était quelqu'un d'intelligent, parfaitement intelligent, mais aveuglé. Par Satan. Or, la Bible et même cette lettre permet de comprendre que l'activité de Satan est maîtrisée par Dieu. Mais cela peut être décourageant quand même. On peut investir dans les gens et dans les relations et se trouve que cela ne rapporte rien. Comment réagir? Allons-nous nous tourner vers d'autres recettes? La tentation peut être grande. Et les évangéliques qui vont dans ce sens sont nombreux. Mais non, nous allons maintenir le cap. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas perdre courage. Paul le souligne verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et un peu plus loin, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Au contraire, nous maintenons le cap. Et ça va vouloir dire veiller sur la forme de notre ministère et veiller sur le fond. La forme, d'abord, n'agissons pas avec ruse, mais exposons la vérité. N'agissons pas avec ruse, mais exposons la vérité. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, nous n'agissons pas avec ruse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Plus loin dans cet épître, Paul va réutiliser ce terme « ruse » pour parler de la façon dont le serpent a agi dans le jardin. Des charlatans, ça existe en milieu évangélique. Des personnes qui trafiquent la parole de Dieu, comme chez les faux docteurs à Corinthe. Il y a quelques années, des personnes de cette assemblée ont assisté à une rencontre organisée par une église bruxelloise. Cette rencontre était animée par le soi-disant prophète Manassé Jordan, venu des États-Unis. Il est arrivé en limousine. Difficile d'imaginer quelqu'un de mieux sapé. Pour y vérifier tout ça en ligne. Si vous avez été là, il vous aurait proposé la protection face au mal valable pour un an, à condition de payer 1 euro par semaine. C'est tout, un don, sur le champ, ce soir-là, 52 euros, un petit acte de foi, et vous auriez été couvert pour l'année. Lui, en revanche, a besoin de protection supplémentaire, semble-t-il, à en juger par la présence à ses côtés de 2 gardes de corps. Lorsque je décris ce qui s'est produit comme ça, on peut avoir l'impression que c'est évident que ce Manassé Jordan est un faux docteur. Mais un grand nombre de personnes ont été séduites par son beau discours ce soir-là et se sont avancées pour déposer leurs dons. À Corinthe, les faux docteurs sont qualifiés d'ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. De même que Satan a trompé Ève, nous pouvons aisément nous laisser tromper par des personnes impressionnantes qui utilisent un langage, une rhétorique, des arguments apparemment persuasifs. D'autant plus que chez Paul, les uns et les autres disent « Oh, lui, il est faible, et sa parole est méprisable. » Visons quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Bon, pourquoi pas réinventer l'Église? C'est quand même pour communiquer l'Évangile dans un monde postmoderne. Pourquoi pas repeindre notre foi? On voudrait quand même avoir un message pertinent pour les gens du dehors. On ne voudrait pas privilégier les propos de Paul qui sont arriérés dans notre contexte actuel. Ce qu'il dit sur le mariage et l'homosexualité, par exemple. Pourquoi oublier l'Église si c'est pour multiplier les disciples? Soyons sur nos gardes face aux ouvriers trompeurs. Et veillons sur nous-mêmes. Car malheureusement, agir avec ruse, nous en sommes tous capables. Je ne suis pas fort pour inviter des personnes à des événements d'évangélisation, mon épouse Myriam l'est, mais il y a un voisin que j'invite assez régulièrement, et j'ai parfois envie d'aller plus loin. J'ai parfois envie de trouver un appât performant, plus que ce qu'il y a sur le flyer, pour qu'il vienne. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Un ami pasteur rapporte une occasion où il était l'orateur d'un souper d'évangélisation. Et donc il a apporté son message, il s'est assis et il était assis à côté d'un invité. Et donc il pose la question à l'invité, mais comment est-ce que vous trouvez la foi chrétienne? Vous avez réfléchi un peu à tout cela? Il dit non, en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi au christianisme. Et mon ami, l'orateur, il répond, mais merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment sympa de ta part. Et il répond, mais en fait, personne n'avait dit qu'il allait avoir un discours. Vraisemblablement, des croyants ont agi avec ruse pour que cette personne soit exposée à l'Évangile. Chérie, je me sens un peu comme si j'allais tomber dans les pommes. Tu peux m'apporter un verre d'eau. Je me souviens d'un concert qui a eu lieu en région parisienne. Le groupe musical était chrétien. Le lieu était un bâtiment d'église évangélique. Des non-croyants étaient présents en grand nombre. Mais le but de l'occasion était ce qu'on appelle parfois la pré-évangélisation, tisser des relations avec des personnes non-croyantes. Le but n'était pas à cette occasion d'annoncer l'Évangile. Et à la fin du concert, un membre du groupe commence à annoncer l'Évangile. Et le pasteur se met debout et l'arrête tout de suite, doucement, mais fermement. Merci de ne pas faire cela. Ça ne faisait pas partie de l'invitation. Les uns et les autres sont venus pour écouter votre musique, mais cela s'arrête là. Voici un pasteur qui a bien compris 2 Corinthiens 4, 2. Merci beaucoup. Rassurez-vous que ce pasteur est un homme de l'Évangile. Hein, et à d'autres moments, il annonce bel et bien l'Évangile, mais pas en agissant avec ruse. Je pense à un ministère qui est connu pour le fait de publier des statistiques impressionnantes sur le nombre de personnes qui ont répondu à l'appel de l'Évangile. Mais j'ai cru comprendre qu'en grattant un peu, que ces réponses correspondent à des personnes qui sont prêtes à remplir une carte dans la rue à la suite d'une conversation avec un croyant. Pas forcément des vraies conversions, en fait. Combien cela pourrait être trompeur? Très souvent, lors des semaines d'évangélisation dans nos milieux, on utilise des sondages pour aborder des gens, pour entrer en conversation avec des non-croyants. Je ne suis pas fan de cela. Est-ce que je pourrais avoir 3 minutes de votre temps pour que vous répondiez à quelques questions au sujet de Pâques? C'est pour un sondage. Mais en fait, ce n'est pas vraiment pour un sondage. Ce n'est pas vraiment pour qu'on ait des informations qu'on va publier, etc. Très souvent, en tout cas, dans mon expérience, nettement mieux, ce serait simplement de dire, nous sommes là pour parler aux uns et aux autres concernant Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà une idée de qui il est? S'agissant de notre soirée d'évangélisation de vendredi, hein, on peut être rassuré que Jésus et mon identité figurent nettement sur le flyer. Donc si des personnes viennent sur la base du flyer, en tout cas, elles ne pourront pas dire qu'elles aient été prises au revers. Soyons sans reproche dans la forme. Au lieu d'agir avec ruse, quelle est notre méthode? Simplement publier la vérité, ou exposer la vérité, ou faire connaître clairement la vérité. Nous exposons la vérité non pas simplement par notre façon d'être, notre façon de vivre. J'ai été étonné de lire ça dans un commentaire cette semaine, que ça c'est la façon ou une façon dont on peut publier la vérité. Non. La façon dont nous exposons la vérité, c'est au moyen de notre bouche, notre langue, nos paroles. En d'autres termes, la forme dont nous nous servons pour l'annonce de l'Évangile est aussi simple et aussi directe et aussi claire que la Bible elle-même. Si la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul chemin au Père, ne disons pas, comme le fait malheureusement un théologien évangélique, le seul chemin au Père, c'est assez compliqué. Non, ça c'est édulcorer la parole de Dieu, alors que nous sommes appelés à être simplement bibliques. Veillons sur la forme. N'agissons pas avec ruse. Ne prenons pas les gens à revers. Soyons sans reproche. Fin du verset 2. Soyons sans reproche devant toutes sortes de personnes et surtout devant Dieu. Si nous veillons sur la forme, nous allons logiquement veiller également sur le fond qui va émerger directement des Écritures. Veillons sur le fond. Titre suivant. Le fond du message que nous annonçons, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Imaginons-le, Eden Hazard se convertit. 3 ans plus tard, il décide de se former en vue d'un ministère de la parole. Il choisit de s'inscrire à l'Institut biblique de Bruxelles. Ce que nous ne ferions pas, je l'espère, c'est afficher une grande photo de Eden Hazard sur la première couverture de notre magazine Le Maillon. Nous serions peut-être tentés de le faire. Quelle publicité pour l'Institut! Mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. À l'Institut, nous diffusons chaque semaine une courte vidéo destinée à booster la foi des croyants. Nous appelons cela « mini-méditation du mercredi ». Et régulièrement, des personnes nous écrivent pour demander l'identité de la personne dans la vidéo. Qui est l'orateur cette semaine? Et régulièrement, je pense à ce verset, 2 Corinthiens 4, verset 5. Dans un sens, peu importe l'identité du frère en question, le but n'est pas de nous prêcher nous-mêmes. Si nous croyons le verset 4, nous n'allons pas nous prêcher nous-mêmes. Si nous croyons que Satan a aveuglé les uns et les autres qui ne sont pas encore en Christ, nous saurons que seul un miracle peut renverser cela. Et le seul moyen dont ce miracle peut se produire, c'est la prédication de Jésus-Christ comme Seigneur. Remarquons-le bien. pas simplement Jésus-Christ comme sauveur. Il est vrai que la personne qui se soumet à la seigneurie de Jésus-Christ bénéficie de sa mort sur la croix et connaît Jésus comme sauveur également. S'il en a Jésus comme seigneur, on l'a forcément aussi comme sauveur. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Nous n'invitons pas les gens à venir vers Jésus pour recevoir le pardon de leurs péchés, point à la ligne. Mais à avoir un nouveau maître, à tourner le dos au péché et à plier le genou devant Jésus. Le seul Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus qui est absolument suprême, le Seigneur de l'univers, le Roi des rois. Celui qui revient bientôt en tant que juge de tout être humain, il faudrait être prêt. En repeignant la foi chrétienne, cet auteur suggère que nous croyants devrions abandonner notre désir de convertir les gens. L'Église doit cesser, dit-il, de considérer les gens avant tout comme étant du dedans ou du dehors, sauvés ou pas, croyants ou non-croyants. Il écarte la notion biblique de l'enfer, un lieu de tourment pour toute l'éternité. Certes, c'est un sujet difficile, mais moins difficile à mesure que nous prenons au sérieux la seigneurie de Jésus-Christ. Lui ne peut tolérer que son autorité soit bafouée. La Bible ne nous demande pas de réinventer l'Église dont Jésus-Christ est le Seigneur. Nous ne délaissons pas l'Église dont Jésus-Christ est le Seigneur. Nous ne repeignons pas la foi chrétienne pour la rendre plus pertinente. Nous pourrions nous fixer comme objectif de devenir l'Église européenne qui est connue pour son expertise en matière d'écologie. Nous pourrions tout axer sur cela. Nous avons les ressources en interne. Nous avons, il était là à la première rencontre, c'est un ancien de cette communauté, un professeur et auteur connu dans ce domaine. Samuel Fofari deviendrait notre conférencier star. Voilà une église avec un message pertinent, pourrait-on penser. Et on pourrait commencer à rêver. Peut-être que Greta pourrait s'intéresser à nous. Les caméramans et les journalistes rueraient sur notre bâtiment. Alors nous aurions un grand impact. Mais pas pour l'évangile de Jésus-Christ, le Seigneur. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de plus pertinent que le message que nous avons. Jésus-Christ est Seigneur. Cessez de suivre des idoles, qu'elles soient dans le Nouvel Âge ou dans l'islam ou dans le sport. Faites demi-tour et suivez le Maître, Jésus-Christ. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas de nouvelles recettes qui sont censées être plus efficaces que la recette biblique. Ce dont nous avons besoin, c'est de maintenir le cap et de veiller sur le fond de ce que nous prêchons. Ce dont nous avons besoin, c'est de prêcher Jésus-Christ, le Seigneur. Et voici ce qui est frappant. Si Jésus est Seigneur, cela veut dire pour l'apôtre Paul que le rang qu'il occupe vis-à-vis des frères et sœurs à Corinthe, c'est celui de serviteur, ou plutôt d'esclave. Fin du verset 5. Et nous nous disons vos serviteurs ou vos esclaves à cause de Jésus. Paul va dire plus loin, « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je dépenserai moi-même pour vos âmes. » Il est prêt à se priver de ce droit qu'il a de recevoir un dédommagement financier relatif au service qu'il rend aux Corinthiens. Il est prêt à se sacrifier au plan de la santé Steve, un programme hyper chargé. Il est sollicité par plusieurs membres de l'Assemblée. En plus de tout ce qu'implique être marié et père de 4 enfants, il dirige l'équipe pastorale de cette église et est engagé pour le Christ sur plusieurs fronts à l'extérieur. Il devient enrhumé. Cela empire, il a des symptômes grippaux. Son corps dit stop. Il pourrait se mettre en arrêt maladie. Mais il sue sur le texte de la parole de Dieu et prépare la prédication du dimanche matin pour nous. Parce qu'il s'est fait l'esclave de nous. Cela du fait de son attachement à Jésus-Christ, son Seigneur. Le ministère de Steve est calqué sur celui de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle à cet égard. Crucifié dans la faiblesse, lisons-nous un peu plus loin dans cette épître. Crucifié dans la faiblesse, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Jésus a été prêt à souffrir. Lui qui n'a jamais péché, a assumé le poids de nos péchés, afin que nous soyons déclarés justes, revêtus de la justice du Christ, nous qui sommes en lui, en Christ. C'est l'inverse du modèle de Manassé et Jordan. Veillons sur la forme, veillons sur le fond, car l'Évangile est puissant et glorieux. Vous voyez le verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce mois-ci se tient un concours d'éloquence, pour les jeune, à ma connaissance, Benjamin ne s'est pas encore inscrit, mais il y a encore un peu de temps. Et la finale aura lieu dans l'hémicycle du Parlement européen. J'ai vu la pub dans le métro et quelque chose qui m'a frappé, c'est une citation, je vais devoir lire, ce n'est pas très lisible pour vous. Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. Et on peut être d'accord. Mais ce qui n'est pas marqué là, c'est les mots justes trouvés au bon moment créent la vie. Vous n'allez pas trouver ça dans cette affiche. Mais dans le verset 6, Paul cite conjointement deux textes de l'Ancien Testament, semble-t-il, Genèse 1 et Ésaïe 9, pour combiner l'idée de la création avec l'œuvre du Messie. Et lorsque l'Évangile est annoncé, pour certains auditeurs en tout cas, c'est là la dynamique puissante et glorieuse. Dieu œuvre dans le cœur, que la lumière soit. Et les auditeurs en question naissent spirituellement. Si quelqu'un est en Christ, voilà une nouvelle création. Leur cécité est remplacée par une compréhension de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et le verset suivant va parler de cela comme étant une puissance incomparable. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, mises au bénéfice de la puissance de l'Évangile, rendues capables de percevoir la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. C'est quoi exactement la gloire de Dieu? Je sais que c'est une notion un peu difficile. J'ai adapté la définition d'un auteur et je l'ai mise sur le feuillet là. Le poids de la bonté majestueuse de Dieu et de sa réputation du fait d'être créateur, juge, sauveur. La Bible précise que la gloire de Dieu est déjà communiquée dans la création. Et donc, on peut se figurer un arbre ou regarder un corps humain. Et voilà déjà la gloire de Dieu. Et puis, nous découvrons en lisant la parole de Dieu que ce qui affiche encore plus la gloire de Dieu, c'est le fait que Dieu juge des rebelles et sauve un peuple pour lui-même. Lors de l'Exode, hors d'Égypte, Dieu a fait éclater sa gloire. Mais suprêmement, c'est dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ que Dieu fait resplendir sa gloire. Vous pourriez prendre du temps cet après-midi. Prenez un évangile, ça pourrait être l'évangile de Marc, et vous pourriez lire cet évangile et vous laisser impressionner par la gloire de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ, dans son enseignement, dans ses miracles, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension. Et un jour, il reviendra dans la gloire et tout œil le verra et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et cela à la gloire de Dieu le Père. Il est vrai que Paul parle ici à la fin du verset 6 de la gloire de Dieu qui resplendit sur la face de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est en train de parler de lui-même et de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Merci à Moïse pour la lecture de tout à l'heure dans Actes 22. Nous avons entendu une grande lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Nous n'avons pas eu cette expérience, mais c'est quand même la gloire de Dieu en Christ qui nous a été annoncée dans l'Évangile, et cet Évangile a illuminé les yeux de notre cœur. On contemple Jésus-Christ, on contemple le Père. Le Père a fait resplendir sa gloire chez le Fils. Le verset suivant va parler de tout cela comme étant un trésor. Et quel trésor supérieur pourrait-il y avoir? Par l'Évangile, Dieu donne vie à des personnes et leur donne de percevoir sa gloire. Ça, c'est la recette qui marche encore aujourd'hui et qui explique même le fait qu'il va y avoir un club biblique et une rencontre évangélisation vendredi soir. Qui ne voudrait pas que ce soit à plus grande échelle où nous habitons, qu'on voit cette recette biblique fonctionner. Mais on ne repeint pas la foi chrétienne. On ne réinvente pas l'Église. On ne quitte pas l'Église. Au contraire, on maintient le cap dans le ministère de l'Évangile qui est puissant, qui est glorieux. Maintenons le cap côté forme. Maintenons le cap côté fond. Maintenons le cap.